Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
L'heure du grand journal du soir. Bonsoir Charlotte de Rouen.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et en Syrie, une femme nommée gouverneure par intérim de la Banque Centrale.
Une nomination du nouveau pouvoir en place dans un pays en pleine transition. Nomination qui intervient aussi face à une polémique naissante. On y revient dans un instant. Les hôpitaux à Gaza se sont transformés en pièges mortels. L'ONU dénonce les multiples attaques israéliennes sur les centres de santé dans l'enclave palestinienne. À l'occasion du nouvel an, le président chinois réaffirme sa volonté de réunification avec Taïwan et n'exclut pas la possibilité de faire usage de la force. Dans une heure, Emmanuel Macron s'adressera aux Français pour ses vœux pour l'année 2025, une nouvelle année dans l'espoir de tourner la page de la dissolution ratée, alors que certains à gauche appellent le chef de l'État à démissionner. Et puis retour à la fin de cette édition sur le parcours de la diva libanaise Fairouz. Une biographie vient de paraître.
Et puis, juste après ce grand journal du soir, eh bien, nous irons en Galilée, dans le nord d'Israël, où des milliers de maisons, eh bien, vont rester vides pour cette soirée de la Saint-Sylvestre. Ceux qui ont fui la région suite à l'offensive israélienne dans le sud du Liban, vous le verrez, ne sont pas prêts à y revenir. En Syrie, c'est donc la première fois qu'une femme est nommée à ce poste.
Maïssa Sabrine est devenue gouverneure par intérim de la Banque Centrale. Elle est chargée de gérer les affaires courantes. On retrouve en direct de Damas Mohamed Errami. Mohamed, comment est vécue cette nouvelle ?
Écoutez, nous avons tenté d'obtenir une interview de Maïssa Sabrine, la nouvelle directrice de la Banque Centrale Syrienne, mais notre demande elle a été refusée. En poste depuis seulement quelques jours, elle fait face à un immense défi. Relever un pays économiquement exsangue après plus d'une décennie de conflits. Maïssa Sabrine n'est pas une inconnue. Docteur en économie, elle était depuis 2018 la numéro 2 de la Banque Centrale sous l'ancien régime de Bachar al-Assad. Son expertise et son expérience ont naturellement mené à ce poste. Clé dans un contexte de crise profonde, cette nomination par Hayat Tahrir al-Sham, les islamistes désormais au pouvoir, est hautement symbolique. Choisir une femme à un tel poste ne relève pas du hasard, c'est un message fort à l'intérieur et à l'international. L'objectif affiché est clair, stabiliser l'économie et obtenir la levée des sanctions internationales pour permettre à la Syrie de repartir sur de nouvelles bases.
Mohamed Errami en direct de Damas. La France espère en Syrie une transition politique qui intègre l'ensemble des communautés. Voilà ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères. Il s'exprimait depuis une base de la FINUL des Casques Bleus dans le sud du Liban. Aujourd'hui, le nouvel homme fort de la Syrie, Abou Mohamed Al-Joulani, a reçu les représentants du clergé de la communauté chrétienne sur Instagram. Des photos le montrent aux côtés de représentants orthodoxes, catholiques, arméniens ou encore syriaque.
Ce constat à présent à Gaza, le système de santé est au bord de l'effondrement total.
À cause des attaques israéliennes incessantes, c'est ce que dit l'ONU, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. L'armée israélienne a mené plusieurs séries d'attaques contre des hôpitaux de l'enclave palestinienne. Des combats ont aussi eu lieu à proximité, ce qui a de graves conséquences pour la population. Les Gazaouis ne peuvent plus soigner. Et ça fait partie d'une stratégie globale, selon la vice-présidente de l'Institut de recherche Méditerranée-Moyen-Orient, Agnès Levallois.
En fait, la stratégie d'Israël est de faire en sorte que ce territoire soit de moins en moins vivable pour la population de Gaza. Et donc, si vous n'avez plus aucun centre de soins, plus aucun centre médical, eh bien, la vie n'y est plus possible parce qu'il n'y a plus aucune structure médicale capable, eh bien, d'assurer les soins les plus élémentaires. Et ça, c'est le cas en particulier dans le nord de la bande de Gaza, où on a de plus en plus le sentiment, enfin, qui est plus qu'un sentiment, que cet endroit doit être vidé de sa population pour que Israël s'y établisse et fasse cette fameuse zone tampon entre la bande de Gaza et le territoire israélien.
Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche méditerranée, ce midi sur RFI. Les États-Unis, de leur côté, disent avoir mené des frappes sur des cibles militaires des rebelles houthis au Yémen. Ces rebelles, soutenus par l'Iran, ont lancé plusieurs attaques de missiles contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Ils disent agir en solidarité avec les Palestiniens. Ils ont revendiqué aujourd'hui 2 attaques de missiles, mais Israël dit de son côté avoir intercepté au moins l'un de ces missiles avant qu'il n'entre sur son territoire.
La guerre en Ukraine à présent et ce bilan. En 2024, les forces russes ont avancé de près de 4000 km² en Ukraine.
C'est presque 7 fois plus que l'année précédente, selon les données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Pas de répit donc sur le front ukrainien ces dernières semaines. La fin de l'année est marquée par de nouvelles frappes, aussi bien en Ukraine qu'en Russie, Yelena Tomich.
Objectif atteint pour le ministère de la Défense russe après une série de frappes menées la nuit dernière dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. La Russie aurait lancé des missiles balistiques de croisière et hypersoniques, ainsi que 40 drones d'attaque Shahed de conception iranienne. Ce matin, l'armée russe ajoute avoir pris pour cible l'infrastructure d'un aérodrome militaire et un complexe militaro-industriel. De leur côté, les Ukrainiens affirment avoir lancé des drones sur un dépôt pétrolier situé dans la région russe de Smolensk, à 500 km à vol d'oiseau de Kiev, la capitale. Les renseignements ukrainiens annoncent aussi avoir abattu un hélicoptère russe en mer Noire à l'aide d'un drone naval, une première. En cette fin d'année, l'Institut américain pour l'étude de la guerre note que les forces russes ont avancé de près de 4000 km² en territoire ukrainien. Pas de percée majeure, mais un grignotage constant des positions ukrainiennes, principalement dans le Donbass. Du côté ukrainien, l'année 2024 aura été marquée par l'offensive menée dans la région russe de Koursk. Malgré la contre-offensive menée par Moscou, l'Ukraine occupait encore en cette fin d'année un peu moins de 500 km² de territoire russe.
Précision signée Yelena Tomich.
Et puis ces accusations calomnieuses sans aucune preuve.
La Chine nie tout piratage du département américain du Trésor. Pour Pékin, les États-Unis diffusent de fausses informations à des fins politiques. L'institution américaine dit avoir été victime d'une cyberattaque début décembre. Les pirates auraient réussi à accéder aux ordinateurs de plusieurs employés. Si les documents dérobés sont de faible importance, l'attaque, elle, représente une faille de sécurité importante pour les autorités américaines. Les relations entre la Chine et les États-Unis, le président Xi Jinping en a parlé lors de ses vœux. Le chef d'État chinois a assuré aussi que personne ne pourrait arrêter la réunification avec Taïwan. Une déclaration forte en ligne droite avec l'intensification de la pression sur l'île indépendante depuis 1949, Nicolas Roca.
Un drapeau de la Chine à sa droite, la grande muraille en fond et une ferme volonté de réunifier la nation. Après une année 2024 marquée par des exercices militaires à grande échelle et une intense pression des avions de chasse chinois autour de l'île, il aurait été étonnant de ne pas voir Xi Jinping évoquer l'épineux dossier taïwanais dans ses vœux aux Chinois.
Les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan font partie d'une seule et même famille. Personne ne peut rompre nos liens de sang et personne ne peut arrêter la tendance historique de la réunification de la mère patrie.
Alors que Xi Jinping n'exclut pas la possibilité d'une réunification par la force, l'état de l'armée chinoise interroge. Si les dépenses dans le secteur de la défense augmentent, la campagne anti-corruption dans l'armée s'est largement poursuivie en 2024 avec la purge de plusieurs hauts gradés. Autre difficulté de cette année qui s'achève, une économie chinoise à la peine, minée par la crise de l'immobilier et une consommation en berne.
Nous devons mettre en œuvre des politiques plus proactive, nous concentrer sur un développement de haute qualité, promouvoir une autonomie scientifique et technologique de haut niveau et maintenir la bonne dynamique du développement économique et social.
Depuis septembre, Pékin multiplie les tentatives de relance de son économie, une politique que Xi Jinping pourrait poursuivre et intensifier en 2025.
Nicolas Roca, en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz dénonce les propos d'Elon Musk. Le milliardaire américain qui détient le réseau social X soutient publiquement l'extrême droite allemande. Des déclarations qui interviennent alors que de nouvelles élections législatives doivent avoir lieu dans 2 mois dans le pays. Vous, les citoyens, décidez du vote. Ce ne sont pas les propriétaires des réseaux sociaux qui en décident. Voilà ce qu'a déclaré le chancelier dans son allocution pour la nouvelle année qui sera diffusée ce soir.
RFI 19h, bientôt 9 minutes ici à Paris. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir présenté par Charlotte de Rouen et dans un peu plus de 50 minutes, on parlait d'allocution. Emmanuel Macron présentera, ce sera à vivre en direct sur RFI, ses vœux aux Français.
Un discours à la télévision dans lequel le chef de l'État voudra probablement tourner la page d'une année marquée par la dissolution ratée de l'Assemblée nationale et la perte d'une grande part de son influence. Raphaël Delvolvé.
Le coup de tonnerre survient le 9 juin vers 21h.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Une heure avant cette annonce retentissante, le camp du président vient d'encaisser une très lourde défaite. Ce sont les élections européennes.
À la première place, le Rassemblement national de Jordan Bardella, 31,5% des suffrages.
Les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans appel.
Ce score inédit de l'extrême droite justifie en partie la dissolution pour Emmanuel Macron. Les conséquences sont énormes.
Nous sommes tombés d'accord sur le fait de travailler à des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions.
Je suis venu ici pour vous annoncer ma candidature.
Nous avons besoin d'une alliance avec le Rassemblement National.
La gauche déchirée pendant les européennes se réunit. François Hollande revient dans l'arène. Éric Ciotti, le patron des Républicains, rejoint Marine Le Pen sans toutefois convaincre le reste de son parti. Les cartes sont rebattues. Une campagne express de 3 petites semaines démarre dans une ambiance parfois tendue.
Quand on fait du racisme anti-blanc, madame, c'est quoi pour vous ?
Qu'est-ce que ça veut dire, le racisme ?
Le premier tour des législatives confirme la percée de l'extrême droite.
Et c'est donc le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en tête de nos estimations avec 34%.
La primature tend alors les bras au RN, mais l'entre-deux-tours verra se dresser face à lui le Front républicain.
Dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature.
Ça fait pas plaisir de devoir faire barrage en utilisant un autre bulletin. Je considère que c'est aujourd'hui notre responsabilité que de le faire.
Les désistements douchent les espoirs du RN.
Le premier parti à l'Assemblée nationale sera le nouveau Front populaire. Vient ensuite la coalition présidentielle. À la troisième position, le Rassemblement national et ses alliés.
Mais dans la nouvelle Assemblée, divisée en 3 grands blocs, personne n'a de majorité nette.
Personne n'a gagné.
La gauche, forte d'un plus grand nombre de sièges, revendique Matignon. Mais Emmanuel Macron temporise pendant les Jeux Olympiques et une alliance fragile entre le bloc central et la droite classique permet la nomination de Michel Barnier à Matignon en septembre.
Nous sommes dans l'état d'esprit de respect, de dialogue.
Il ne restera que 91 jours en poste, renversé sur son budget par une motion de censure votée par la gauche et l'extrême droite.
Le Premier ministre doit remettre la démission du gouvernement.
En lui succédant, François Bayrou devient le 4e Premier ministre de l'année, du jamais vu même sous la très instable 4e République. La vie politique française n'a sans doute pas fini de sentir les répliques du séisme de cette dissolution que beaucoup jugent encore aujourd'hui incompréhensible.
Et c'est dans ce contexte politique particulier en France que les vœux cette année prennent une tournure très politique. Forcément, à quelques heures du passage à la nouvelle année, les hommes politiques de droite comme de gauche publient leurs vœux sur les réseaux sociaux. On fait le tour avec Victorien Villaume.
Il y a ceux qui maintiennent la pression sur Emmanuel Macron, à commencer par la France insoumise, Manuel Bompard.
Nous ne lâcherons rien. Le responsable, c'est Macron. Il doit partir au plus vite.
Le Rassemblement national est davantage dans la suggestion, espérant une décision démocratique. Marine Le Pen.
2025 sera une année décisive, où se décidera sans nul doute la transition politique qui peut seule inverser le cours des événements et remettre la France dans la course de l'histoire.
Autre tonalité au centre où l'on espère le maintien de François Bayrou, au moins pendant 6 mois, le centriste Hervé Morin.
Jusqu'au moment où éventuellement la dissolution de l'Assemblée nationale ou l'élection présidentielle permettra aux Français d'écrire un nouveau chemin.
À droite, mélange d'optimisme et de gravité sur les défis qui s'annoncent, le président du Sénat, Gérard Larcher.
2025 aura bien sûr son lot de défis. Il nous faudra d'abord donner un budget à notre pays.
Dans le camp présidentiel, on préfère voir le verre à moitié plein. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée.
Certains ont une vision très pessimiste de ce que sera la France dans les mois qui viennent. Eh bien, pas moi.
Un point commun tout de même dans ces vidéos, ou plutôt une phrase commune.
Très heureuse année 2025.
Bonne année.
Bonne année à tous.
Nos voeux les plus sincères pour 2025.
Voilà, Victorien Villaume du service politique de RFI. Pour terminer ce dernier grand journal du soir de l'année sur RFI, eh bien, on évoque celle qui est considérée comme la dernière diva encore en vie du monde arabe.
Oui, c'est la chanteuse libanaise Fairouz. Elle vient de fêter ses 90 ans et pour l'occasion, une biographie de Marjorie Bertin vient de sortir chez Orient Éditions, un livre intitulé « Fairouz, moi, je chante l'humanité ». Muriel Mahalouf.
I'm
On termine aussi cette année avec de l'amour. Chaïef El Bahr, qu'on vient d'écouter, est l'un des grands airs d'amour de Fayrouz dans une carrière prolifique de plus de 60 ans qui compte un large répertoire de plusieurs centaines de chansons et une cinquantaine d'albums. Il est fait également d'opérettes où elle magnifie le terroir, mais aussi de chansons engagées comme Li Beyrout où elle pleure sa ville en proie à la guerre civile.
Li Beyrout من قلبي سلام لبيروت.
Fayrouz a aussi révolutionné la musique arabe avec les frères Rahbani, Rassi, son mari et Mansour, raccourcissant les morceaux et fusionnant les sonorités orientales avec le répertoire classique européen ou les airs latino-américains. Puis, elle collabore avec son fils Ziad, qui donne un souffle jazz à ses derniers morceaux comme dans Bosta, une de ses chansons les plus populaires. Une longue histoire que réussit à raconter Marjorie Bertin dans un petit livre richement illustré.
Fayrouz et Muriel Mahalouf du service culture de RFI. La suite, c'est avec Romain Ozoui.
Ah bien, merci Charlotte Dorin, ça fait du bien, un peu de musique en ce dernier jour de l'année. C'était le grand journal du soir sur RFI. Dans les prochaines minutes, nous irons en Galilée, dans le nord d'Israël, où des milliers de maisons vont rester vides en cette soirée de la Saint-Sylvestre. Ceux qui ont fui la région suite à l'offensive israélienne dans le sud du Liban ne sont pas prêts à y revenir. Notre reportage à suivre. Et puis rencontre avec celle qui a donné naissance à un personnage qui concentre plusieurs millions de vues. Ce personnage, c'est Samuel, un enfant de 10 ans, et son autrice, une jeune Française de moins de 30 ans, qui ne manque pas, vous le verrez, de talent. Pour l'heure, voici les sports. Évidemment, je vais la faire. Vous non plus, vous ne manquez pas de talent. Bonsoir.
C'est beau. Bon, merci, Romain. Je vous renvoie le compliment.
Oh là là, le tennis pour débuter ce journal des sports. La saison 2025 commence plutôt bien pour Novak Djokovic, le Serbe vainqueur de son premier match en simple.
Oui, victoire au premier tour du tournoi de Brisbane. On est en Australie face à un local, Rinki Hijikata, 6-3, 6-3. Un bon galop d'essai pour l'ancien numéro 1 mondial qui, dans 10 jours, à Melbourne, à l'Open d'Australie, partira à la conquête d'un 25e tournoi du Grand Chelem. Novak Djokovic à 37 ans, il se cherche un nouveau souffle après une saison 2024 où il n'a réellement brillé qu'au Jeux de Paris. Et pour repartir du bon pied, le Serbe a changé son staff. Il est désormais entraîné par un certain Andy Murray. L'Écossais n'est pas encore arrivé en Australie, mais Novak Djokovic a eu quelques mots pour lui après sa victoire de ce mardi.
Là, il est au ski, il passe des vacances en famille. J'en profite pour saluer toute la famille Murray, je les embrasse. J'espère juste qu'il ne va pas se blesser au ski avant de venir à Melbourne. Mais sinon, oui, on s'est parlé avant le match, on communique tous les jours. Je suis très excité à l'idée de l'avoir à mes côtés dans mon box. Pendant plus de 20 ans, on était adversaires sur le court. Là, pour la première fois, on sera dans le même camp. Vivement qu'on se retrouve à Melbourne.
Et Novak Djokovic qui affrontera un Français au deuxième tour, Gaël Monfils, 38 ans, qui n'a jamais remporté un seul match face aux Serbes. Et parmi les autres résultats de la journée, en Australie, Guillaume Pecci-Péricard est venu à bout du fantasque australien Nick Kyrgios en 3 manches, 7-6, 6-7, 7-6, c'était très serré.
Alors, dans l'actualité sportive également de ce 31 décembre, il y a du tennis de table parce qu'il y a du rififi hein, du côté du circuit mondial. La légende chinoise Ma Long claque la porte.
Ouais, le chinois de 36 ans, numéro 8 mondial jusqu'à ce lundi. Il ne s'est pas prononcé publiquement sur les nouvelles règles imposées par la WTT concernant des amendes à payer en cas de non-participation à un tournoi mondial, mais Ma Long n'apparaît plus dans les classements. Ma Long est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire, 6 médailles d'or au JO, 15 au championnat du monde, 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde. Il rejoint ses compatriotes et champions olympiques Fan Zhendong et Chen Meng, tous deux également exclus du circuit WTT.
Allez, le basket, la NBA, LeBron James, 40 ans, qui va fêter son anniversaire sur les parquets avec son équipe des Lakers de Los Angeles.
Oui, une 40e bougie depuis hier soufflée sur le parquet la nuit prochaine à Cleveland dans l'Ohio où il est né. C'est Los Angeles Lakers qui affronte les Cavaliers, premiers en NBA cette saison. James, meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue, il joue depuis 2003 et malgré quelques cheveux blancs, il faut le dire, il ne fait pas son âge et ne le ressent pas vraiment.
To just wake up and just be like, oh, Se réveiller et se dire « Oh mince, j'ai 40 ans », ça fait drôle. C'est amusant de constater que je joue encore au plus haut niveau. Je reste un jeune homme, mais je suis vieux par rapport au nombre d'années passées dans le basket. Je repense à mon arrivée dans la ligue, j'étais un jeune de 18 ans à peine. Et maintenant, vous avez devant vous une personne de 40 ans en NBA depuis 22 saisons et qui a un fils de 20 ans qui joue aussi dans la ligue. Pour être honnête, je pourrais jouer encore 5 à 7 ans si je le voulais, mais je ne vais pas le faire.
Les Cavs, Lakers, début du match, 1h temps universel, faudra rester éveillé Romain Ozou, mais vous le serez pour le réveillon.
Évidemment, et ce sera donc en 2025.
Exactement.
Bon réveillon à vous. Merci Sofiane Amazian. 19h20, ici à Paris. Et donc alors que la planète célèbre le passage à la nouvelle année, eh bien ils sont plusieurs dizaines de millions à vivre loin de chez eux. Parmi ces déplacés, gros plan sur les habitants du nord d'Israël. 60 000 d'entre eux ont quitté leur maison lors de l'offensive sur le sud Liban. Eh bien maison qu'ils ne sont pas prêts de retrouver un peu plus d'un mois, pourtant après le cessez-le-feu. Et oui, car sur place, c'est toujours la méfiance qui l'emporte avec la crainte d'une reprise des combats. C'est un reportage en Galilée, signé Pierre-Olivier.
Dans l'extrême nord d'Israël, le moshav de Shar Yalchouv a des allures de village fantôme. Une petite communauté où vivaient 600 personnes avant la guerre, mais plus d'une sur deux a fui les combats. Au milieu des maisons, aux volets fermés, Guidi Harari, lui, n'est jamais parti. Cet ancien colonel nous accueille chez lui autour d'un café. Donc là, Guidi a sorti des cartes qui sont dans un album et qu'il nous montre.
Là, c'est Kiryat Shmona, la grande ville du coin. Et nous sommes ici à Shar Yalchouv. Et à 2 km, c'est la frontière avec le Liban. On est vraiment à la périphérie d'Israël.
Ce moshav est toujours officiellement une zone évacuée. Alors, Guidi Harari prépare le futur retour des habitants.
Par exemple, je coordonne une équipe de bénévoles qui prépare les maisons des personnes âgées qui sont parties. Ça veut dire s'occuper du jardin, repeindre, ranger, nettoyer, tout ce qui n'a pas été fait depuis plus d'un an.
Qu'est-ce qui manque pour que les 300 habitants du moshav qui sont partis reviennent ?
Alors d'abord, il faudrait que les écoles rouvrent. Et puis, il n'y a aucune activité économique, ce n'est pas très attirant. Les magasins sont fermés, les usines aussi. Les gens ont besoin de pouvoir reprendre leur travail pour rentrer, et ce n'est pas le cas.
Mais d'après Guidi Harari, certains habitants ne reviendront même jamais.
La plupart des familles évacuées n'avaient jamais vécu ailleurs qu'ici. Dans les grandes villes, elles ont découvert qu'il y a de bonnes écoles, des bons médecins, que les salaires sont meilleurs. 15% ne reviendront pas.
Justement, parmi ceux qui hésitent à revenir dans le nord d'Israël, il y a Ren Blum, une mère de famille. Alors nous allons contacter Ren par WhatsApp. Elle est logée avec ses enfants par le gouvernement dans un hôtel juste à côté de Tel Aviv.
Ce cessez-le-feu ne tiendra pas et je ne veux pas mettre mes enfants en danger. Donc pour l'instant, rentrer n'est pas à l'ordre du jour. Et même si je suis très patriote, j'ai décidé de rester là pour offrir un meilleur avenir à mes enfants.
Et puis il y a ceux, une minorité, qui sont revenus, comme Raed Ahmed, qui habite à 4 km de la frontière libanaise, dans le village druze d'Ourfesh.
Maintenant, c'est devenu calme. Calme, mais pas sûr. Il suffit d'une étincelle pour que ça reparte comme après le 7 octobre 2023.
Pour l'instant, le gouvernement israélien continue de subventionner les personnes déplacées en leur payant l'hôtel. Mais cela s'arrêtera un jour. Nombreux sont ceux qui évoquent la date du 1er février prochain. Pierre-Olivier, Shar Yalchouv et Ourfesh, RFI.
Retour à Paris, 19h23 dans la capitale française. RFI. Et on vous emmène à présent à la découverte de Samuel, un personnage de 10 ans, au cœur d'une série animée à succès où ses danses et son journal intime ont pu être appréciés par des millions d'internautes dans le monde. Les 21 épisodes courts ont été au printemps diffusés sur la plateforme internet de la chaîne Arte et ses réseaux sociaux, mais eh bien face au phénomène, la série désormais se retrouve directement sur Arte, c'est-à-dire jusqu'à la mi-janvier. Derrière Samuel, il y a une jeune Française de moins de 30 ans, Émilie Tronche, créatrice de la série. Sophie Torlotin l'a rencontrée pour RFI.
Émilie Tronche, bonjour.
Bonjour.
Samuel a 10 ans et tient son journal. Et avec lui, vous racontez les 1000 bonheurs et soucis d'un enfant. Il vient d'où, Samuel ? Est-ce qu'il vient de vos souvenirs, vous qui aviez 10 ans en 2006, qui est à peu près l'époque de la série ?
Ouais, il vient de mes souvenirs totalement. Il grandit dans la même ville où moi j'ai grandi, il va dans la même école, le même collège. Donc voilà, ouais, j'ai construit son univers à partir de mes souvenirs.
Mais comme elle écoutait fort, j'ai capté qu'elle écoutait Dire Straits et moi, c'est mon deuxième groupe préféré après ABBA. I don't want to
talk. Alors Samuel danse pour évacuer ou exprimer ses émotions. C'est un petit garçon qui porte un regard assez mélancolique sur le monde. On n'est pas dans l'insouciance.
Oui, il sourit pas beaucoup, par exemple. Il esquisse de temps en temps un petit sourire, mais c'est le maximum. Et c'est ça, il a un regard assez mélancolique et en même temps un peu insouciant et nonchalant. Il vit sa vie, quoi. Et puis il tombe amoureux et il est bouleversé par beaucoup de choses. Et voilà, donc il a besoin d'écrire dans son journal tout ce qui lui arrive. C'est très important pour lui.
Et il échappe aux stéréotypes de genre.
Ouais.
Il ne fait pas partie des populaires de la cour de récré.
Non, pas forcément. Et en même temps, il a un petit côté un peu cool. C'est vrai que je voulais pas forcément l'identifier à un stéréotype de la cour de récré. Même voilà, au niveau du genre, je sais que je voulais pas gommer sa part de féminité, puisque voilà, je l'écris moi en tant que femme et avec mon regard de peut-être aussi de petite fille de 10 ans. Donc voilà, je voulais mêler un peu tout ça dans son personnage.
Tu vois, Jean de La Fontaine, on a fait théâtre en classe et on devait jouer le corbeau et le renard. La maîtresse, elle a mis carrément narrateur, moi corbeau et la grande jolie renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un
Émilie
fromage.
Tronche, Samuel, au départ, vous l'avez conçu pour vous. Vous ne l'avez pas imaginé en série, vous ne l'aviez pas au départ préalablement vendu à une chaîne.
Ouais, totalement. Je faisais vraiment ça pour moi. Le premier épisode, je l'ai fait toute seule, sans me poser de questions. Je ne pensais même pas en faire une série, rien du tout. J'ai juste posté sur les réseaux sociaux. Petit à petit, avec les retours et tout, ça a donné envie d'en faire une série. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment pour moi et mes proches.
On a l'impression, avec cette série, que vous retrouvez aussi l'enfance de l'animation, avec ce trait noir faussement simple sur fond blanc. Vous vouliez aussi retrouver cette spontanéité du trait propre à l'enfance.
Oui, au début, je voulais dessiner sans me juger. Je gardais même tous les dessins que je trouvais moches, je les gardais. Je voulais qu'il y ait ce bouillonnement qu'il y a quand on gratte sur son journal intime, qu'on écrit et qu'on jette ses pensées. Je voulais le retrouver dans mon dessin et dans Samuel et ce côté fait maison aussi qui me plaisait beaucoup.
Et du coup, c'est votre voix en fait, la voix de Samuel.
C'est ça, ouais. Je fais aussi la voix des personnages, donc un projet très auto-centré finalement.
Est-ce que, Émilie Tronche, vous avez déjà la suite? Parce que là, il y a 21 épisodes. Est-ce qu'il y aura une saison 2, 3? Est-ce que Samuel va grandir?
On y pense, ouais, j'y pense. Peut-être pour l'année 2025, commencer à travailler dessus, sur une saison 2. Pour l'instant, je travaille plutôt sur une bande dessinée avec un des personnages de la série. Et ouais, peut-être une saison 2. Et en tout cas, Samuel grandirait, c'est sûr. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de le voir évoluer, de le voir se confronter aux différents âges, ce que ça implique. C'est ça qui m'intéresse.
Émilie Tronche, merci.
Merci beaucoup.
Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux.
Voilà, Émilie Tronche, créatrice de la série Samuel, diffusée actuellement sur la chaîne Arte.
RFI.
Allez, dans un peu plus de 2 minutes, il sera à 19h30 ici à Paris, 18h30 en temps universel. Ce sera la première édition d'Afrique Soir. Et puis, d'ici là, un peu de musique, puisqu'on avance doucement vers 2025. Voici les Sénégalais d'Orchestra Baobab avec Idrissa Diop. Le titre s'appelle Boulendem.
Katinen bëgg jël gal som bu geejgi bu ñëppal déme ko fi dees ñun suñu réew mi ñoo ko moom ñu rafetal utin bi toog fi tekk fi mën a nekk te nag ñu bàyyi xel suñu bolo bëri doole.
Voilà, les Sénégalais d'Orchestra Baobab avec Idrissa Diop, Boulendem sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute dans une minute. Afrique Soir, la première édition. On va parler évidemment du Tchad 2 jours après. Le triple scrutin, les réactions se multiplient.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Dans un monde en constante évolution, une valeur reste essentielle, la confiance, comme celle que vous nous offrez chaque jour.
Le témoignage, c'est un migrant, quelqu'un qui a voulu chercher un avenir meilleur ailleurs, qui va nous faire suffisamment confiance pour nous raconter son parcours, son histoire.
Sur tous les continents, où que vous soyez, dans nos éditions d'information et nos magazines, nous plaçons votre confiance au cœur de notre mission.
Votre confiance, notre raison d'être.
Bonne année 2025 sur RFI.